Bonjour messieurs, dames, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres qui vous seront développés tout à l'heure: rétablir la confiance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles, améliorer le climat des affaires, améliorer l'efficacité économique dans les procédures d'exécution de la dépense publique. Ces points étaient inscrits à l'ordre du jour d'une rencontre lundi à Kinshasa entre la Banque mondiale, l'Union européenne, les agences onusiennes d'un côté et de l'autre les ministères congolais de budget, des hydrocarbures et des finances. Le Kenyan veut encourager encore davantage les échanges commerciaux avec la RDC. Son ambassadeur au Congo a discuté cette semaine à Goma avec les autorités du Nord Kivu sur le raffermissement du trafic entre l'est de la RDC et le port de Mombasa au Kenya. Une nouvelle solution de monnaie électronique lancée sur le marché congolais, il s'agit d'Afrimobile Money, lancée ce jeudi à Kinshasa. Elle devra contribuer à booster les transactions financières en RDC. Voilà pour le titre, messieurs et dames. Bienvenue à notre rétrospective économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
La Banque mondiale, l'Union européenne, les agences onusiennes ainsi que les ministères congolais du budget, des hydrocarbures, du portefeuille autour du ministre des Finances ont tenu lundi à Kinshasa la première réunion du groupe thématique gouvernance économique. Cette rencontre avait pour objectif rétablir la confiance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles, améliorer le climat des affaires et améliorer l'efficacité économique dans la procédure d'exécution de la dépense publique. Les détails de cette rencontre avec Nadine Foula.
La réunion thématique se tient tous les trimestres. Cette première rencontre de l'année se tient dans un contexte marqué par les ralentissements de l'économie au niveau international. Henri Yafmoulan, ministre des Finances, explique.
À chaque fois, nous essayons de faire l'état d'avancement en termes de transparence, de traçabilité, de gouvernance et dans ce cadre-là, avec les partenaires qui nous accompagnent, nous faisons le point pour voir là où il y a des problèmes, des contraintes.
De son côté, le ministre des Hydrocarbures parle de quelques avancées observées dans son secteur, Emengoy.
D'abord, au niveau même du plan de la loi qui a été déjà promulgué, il y a aussi le règlement des hydrocarbures qui sera bientôt publié. Il y a aussi la cartographie de tous les blocs pétroliers qui a été faite et bientôt...
Et enfin, les directeurs des opérations de la Banque mondiale encouragent la tenue de ces cadres permanents de dialogue. Moustapha Ndiaye.
Il faut saluer en fait l'organisation de ce cadre permanent de dialogue et nous discutons en toute franchise sur l'état d'avancement des réformes. Depuis que j'ai commencé à participer à ces réunions, je vois qu'il y a un certain nombre de mesures de réaliser.
Rappelons que le groupe thématique gouvernance économique constitue un cadre de dialogue et des concertations entre le gouvernement, le partenaire technique et financier, la société civile et les secteurs privés en vue de rechercher les consensus sur les pistes susceptibles de conduire la RDC vers un développement durable.
À Beni, c'est le directeur provincial de la Direction générale des douanes et accises au Nord Kivu qui a bouclé après 4 jours les discussions avec les opérateurs économiques de la ville de Beni et de Butembo. Ceux-ci avaient opté pour des ports autres que ceux du Nord Kivu pour dédouaner leurs marchandises importées. Cette situation, avait-il dit, a occasionné une baisse des recettes de la DGDA Nord Kivu depuis plusieurs mois. Explication avec Martial Papimoukeba.
Depuis environ 6 mois, les recettes de la DGDA au Nord Kivu connaissent une baisse. Selon des sources douanières, la DGDA en province, dont les assignations sont d'environ 10 milliards de francs congolais par mois, réalise à ces jours les recettes qui varient entre 7 milliards et 7 milliards et demi de francs congolais. La baisse des recettes s'explique par le fait que certaines importations destinées pour la province du Nord Kivu sont déclarées dans d'autres provinces, à Bunia et Maharaj. Karagi dans la province de l'Ituri et Bukavu au sud Kivu notamment. D'où cette rencontre depuis 4 jours entre la DGDA et les opérateurs économiques en vue de trouver intérêt d'attente. Désiré Benoît Nyanda Malanda, directeur provincial de la DGDA Nord Kivu.
Lorsqu'il y a baisse des importations, automatiquement cela entraîne également la baisse des recettes. Et nous sommes venus pour discuter également avec les opérateurs économiques qui nous expliquent un peu quelles sont les raisons qui sont la cause de cette baisse. Ils nous ont expliqué, ils ont des difficultés financières. Certains, pour l'une ou l'autre raison, ont préféré délocaliser leurs importations. Et c'est pourquoi il est de notre devoir de leur demander de revenir.
Selon d'autres sources douanières, ces opérateurs économiques soutiennent à tort que dans d'autres provinces, les conditions de dédouanement sont favorables car la DGDA utilise les logiciels Sidonia Plus Plus à la place des Sidonia Words. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
L'ambassadeur du Kenya en RDC, George Massafou, a visité Goma depuis dimanche dernier. Il était allé discuter avec les autorités du Nord Kivu en vue de renforcer les échanges commerciaux entre son pays, le Kenya, et la République démocratique du Congo. Selon le diplomate kenyan, son pays souhaite voir se raffermir le trafic entre l'est de la RDC et le port de Mombasa au Kenya. Il a aussi annoncé que dans les jours à venir, les avions de la compagnie aérienne Kenya Airways pourrait atterrir à l'aéroport international de Goma. L'ambassadeur Dr. George Massafou est au micro de Bernardine Dambou.
Je suis venu ici dans le cadre de la coopération entre le Kenya et la RDC. Nous voulons que nos deux pays aient une bonne coopération commerciale. Le commerce peut se faire par voie routière, par voie aérienne et ferroviaire. Vous voyez beaucoup de conteneurs arriver ici à Goma en passant par Mombasa au Kenya. Et maintenant, nous construisons le chemin de fer qui pourra acheminer très rapidement les marchandises. Et les marchandises pourront arriver dans une semaine seulement à Goma au lieu de 2 mois comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y aura fluidité dans le commerce et ça permettra de booster en même temps l'économie de nos deux pays. Notre souhait est que la paix et la stabilité soient restaurées ici en RDC. Nous, au Kenya, nous croyons que seuls les Congolais eux-mêmes ont la solution aux problèmes sécuritaires que nous rencontrons ici.
Le diplomate kenyan a visité lundi dans les installations de la MONUSCO à Goma, le centre de presse William Elachi, construit par la MONUSCO. C'était pour honorer la mémoire de son compatriote décédé le 7 octobre 2014 à Goma, alors qu'il travaillait pour la mission de l'ONU en RDC.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Le reste de l'actualité économique de la semaine en plus bref, le ministre des Finances de la RDC a organisé à Kinshasa cette semaine la 18e réunion du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique centrale, AfriTAC Centre en sigle. Cette initiative du FMI a pour mission de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humanitaires des pays et institutions régionales membres, était inscrit au menu de cette session qui succède à celle de N'Djamena, l'exécution du travail 2015-2016, le rapport financier de l'AfriTAC en fin février 2016. Les représentants de 8 pays membres ont pris part à cet atelier d'une journée seulement. Deux ponts bascules de la DGDA, l'un pour les importations et l'autre pour les exportations, ont été inaugurés mercredi au village Whisky, c'est à 10 km de Kasumbalesa. Ces deux ouvrages ont été réhabilités sur financement de la DGDA et sur demande du gouvernement de la République. Ce sont des ponts d'une capacité de 80 tonnes chacun sur lesquels la DGDA a tant s'appuyé pour lutter contre la fraude, à renforcer le contrôle douanier et à maîtriser le tonnage des marchandises. Le coût global de ces travaux n'a pas été révélé. Remise toujours mercredi, mais à Bouta, au responsable du service de développement rural, d'un dépôt assorti de bureau. La cérémonie a été présidée par le commissaire spécial adjoint du Bazouélé en charge de l'économie. Construit grâce au financement de l'ancienne province orientale, cet édifice d'une capacité de 10 à 15 tonnes a également bénéficié de l'apport matériel de la 14e communauté baptiste du Congo Nord et d'un député provincial. Il servira de lieu de stockage des semences améliorées en vue d'augmenter la production agricole dans le Bazouélé, ont confirmé les bénéficiaires.
Panorama économique, matière première.
Dans notre rubrique en matière première, nous allons parler des opérateurs miniers de l'Ituri qui sont appelés au respect des normes de la traçabilité des minerais, cela conformément au mécanisme régional de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. C'est le coordonnateur national du projet Partenariat Afrique-Canada en RDC, projet qui appuie le processus de traçabilité qu'il a dit mercredi à Bunia au deuxième jour de l'atelier de sensibilisation sur les mécanismes de certification des minerais dans la région est de la RDC, atelier clôturé jeudi soir. Pour Victor Kangela, s'inscrire dans la légalité dans l'importation des matières premières, c'est contribuer efficacement au développement de la jeune province de l'Ituri. On l'écoute au micro de Marcel Kiza.
La traçabilité, c'est un outil important dans la mise en œuvre du mécanisme de certification régionale des minerais. Donc ça entre dans l'optique de la formalisation aussi du secteur minier artisanal. D'abord, ça permet d'avoir les informations sur les origines des minerais qui font l'objet des transactions. Encore le plus important, c'est que ça permet d'avoir une maîtrise sur le flux de la production minière. Tracé, ça va permettre à qu'il y ait la maximisation des recettes tout au long de la chaîne. Parce que tous les actes légaux qui seront posés auront des retombées financières et ces retombées aussi pourront, à travers la traçabilité de la matière, la traçabilité aussi financière va suivre. Une chose, de s'inscrire dans la voie de la légalité. C'est l'unique façon pour eux de contribuer au développement de leur pays. Il est grand temps qu'on change de cap, on quitte le bateau de l'illégalité qui est le passage obligé pour le développement et de cette jeune province, mais aussi de ce pays.
Panorama économique sur Radio Capi. Dans la deuxième partie, nous recevons Maître Georges Bokundu. Il est de la société civile, les organisations de la société civile qui militent dans le secteur des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Maître Georges Bokundu, bonjour.
Bonjour.
Après la déclaration des organisations de la société civile du 9 mars à l'endroit du Premier ministre, c'était une déclaration après le mémo lui adressé. Hier, le 25 mars, vous avez fait une nouvelle déclaration, mais celle-là adressée au Parlement. Vous lui demandez que la question relative à l'examen de la loi sur la révision du code minier soit effectivement programmée. Vous ne voyez pas que vous demandez un peu trop, vous faites un peu trop la pression?
Non, ce n'est pas une question de pression. Vous savez, quand on est élu du peuple ou on est gouvernement, il faut vous attendre à toute sollicitation de la population. Nous représentons une couche de la population et c'est une contribution à l'évolution ou à l'examen ou à l'élaboration d'une loi. Et lorsque nous avons fait le mémorandum au ministre et que nous voyons aujourd'hui que le projet est inscrit à l'ordre du jour, c'est une satisfaction. Et nous croyons effectivement que le Premier ministre a écouté nos voix et qu'il a facilité la façon dont on fait avec l'Assemblée nationale ou les parlements pour inscrire ce que nous avons demandé au calendrier. Ce n'est pas une pression, c'est un droit qu'un Congolais, une population, exerce vis-à-vis de son élite du peuple. Le fait d'inscrire les projets dans les calendriers ne nous donne pas une grande satisfaction.
Ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas pour nous, parce qu'on peut l'inscrire et puis on ne l'examine pas. C'est pour cela que nous invitons les bureaux du Parlement, surtout les présidents de l'Assemblée nationale, à programmer la présentation officielle de ces projets. Parce que c'est là qui annonce le départ de l'examen de la loi. Lorsque le ministre des Mines va présenter officiellement à la plénière les projets de la loi, et que les parlementaires vont en débattre vont en débattre à la plénière avant de l'envoyer à la commission. Vous allez voir que la société civile sera satisfaite totalement parce qu'on connaît le travail que la commission environnement va faire, parce que nous avons travaillé avec cette commission lors de l'examen de la loi portant régime général des hydrocarbures et nous avons confiance à cette commission. C'est une grande loi, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais il faut que la commission soit saisie. C'est ce qui est d'abord prioritaire pour nous ici.
Mais vos partenaires qui sont en face de vous, les sociétés minières, pensent que les modifications que vous apportez à ce code vont les pénaliser, vous relevez beaucoup trop le niveau de la fiscalité.
Non, il n'y a aucune compagnie qui peut dire ça tout haut. Quand on dit relever trop haut la fiscalité, d'abord ces textes-là, nous l'avons travaillé avec eux. Les compagnies ont été représentées valablement aux travaux tripartites. Il y a eu quelques points de divergence qui nous ont amenés au Grand Hôtel, qui nous ont amenés au cabinet du ministre des Mines, et qu'au mois de mars, je pense, ou avril de 2014, nous avons signé un procès-verbal clôturant les travaux. Je ne pense pas qu'on devait avoir une si haute inquiétude jusqu'à amener le gouvernement à faire sur soi l'examen. Non, il n'y a pas que les questions fiscales que nous réclamons de toutes les façons dans cette loi-là.
Quoi d'autre?
Il y a beaucoup de questions de développement. Il y a beaucoup de questions de transparence qui sont là-dedans. Vous savez, notre code qui est de 2002 comme les autres, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le monde des lois minières. La Guinée, par exemple, qui a une loi qui exige que l'élaboration d'un cahier des charges à la signature des contrats miniers. Nous n'avons pas, il n'y a pas une exigence de signature des cahiers des charges dans la loi de 2002. Mais ici, nous avons mis, et nous étions tous sur le même pied d'égalité, nous étions tous d'accord sur l'inscription d'obligation des cahiers des charges dans la nouvelle loi. Nous avons mis ensemble les questions de transparence dans la loi. Nous avons mis ensemble beaucoup de questions de développement local, notamment les fonds pour le développement local, qui n'étaient pas dans la loi de 2002. Même si le gouvernement, en conseil des ministres, a rabattu ce taux qui était à 0,3% pour l'amener à 0,1%. Donc, je pense que les compagnies minières qui sont nos partenaires, qui contribuent à notre développement d'une manière ou d'une autre, ne doivent pas avoir beaucoup d'inquiétudes. La loi que nous sommes en train de demander l'examen aujourd'hui, les dispositions fiscales, à l'exception des redevances minières, où nous avions eu un compromis, mais ne vont être appliquées que 10 ans après. Vous comprenez un peu les délais qu'une loi qui a été adoptée en 2002, qui a garanti une certaine stabilité dans les modifications, nous arrivons en 2012, on n'a pas modifié, nous sommes en 2016, c'est-à-dire 14 ans après. Et que si on la modifie aujourd'hui, les nouvelles dispositions n'entreront en vigueur qu'en 2026. Si vous comptez le nombre d'années, ça nous fait combien? 24 ans pour la monnaie. Donc, c'est-à-dire que le Congo, c'est ce que je disais au cours d'une réunion à l'époque, notre pays ne modifie pas les lois tous les jours comme les gens le croient. Notre pays a quand même une certaine stabilité de ses lois. Il faut apprécier certaines choses. Nous sommes passés de 2% pour la redevance minière des cuivres et cobalt de 2 à 3,5. Et les compagnies étaient d'accord. Ils avaient juste souhaité que nous commençons à 3% avant d'arriver à 3,5 jusqu'à ce que le gouvernement pourra améliorer la descente en électricité. Mais aujourd'hui, nous avons une loi sur l'électricité. Donc, chaque compagnie peut aussi mettre dans son budget d'investissement, d'exploitation, la question de l'électricité et produire sa propre énergie électrique. Donc, nous ne voyons pas une grande inquiétude des compagnies. De toutes les manières, comme nous le disons tous les jours, c'est le parlementaire qui a la décision finale. S'il y a encore quelques inquiétudes, parce que la société civile en a, nous les amenons aux parlementaires. Qui va les examiner? Qui peut ou ne pas les adopter? Mais on doit avoir confiance au Parlement. Leurs cris d'alarme vont être écoutés par les parlementaires. Mais je ne pense pas que dans cette loi-là, les compagnies peuvent soulever 5, 3, 4, 5 dispositions qui les mettent mal à l'aise. Je ne pense pas.
Prenons qu'aujourd'hui, la question est inscrite à l'ordre du jour des sujets qui seront débattus au cours de cette session. Prenons que cette question de la révision du code soit aussi programmée et que les parlementaires le rejettent.
Bon, les parlementaires ont le pouvoir de rejeter une loi. D'abord, a le pouvoir de l'accepter, parce que d'abord ça vient du gouvernement, a aussi le pouvoir de les rejeter. Mais je pense qu'on a confiance à notre parlement. C'est ce parlement-là qui avait adopté cette loi à Lubumbashi. Et la loi de Lubumbashi n'avait pas obtenu la contribution de toutes les parties prenantes. C'était un projet présenté par le gouvernement. Je ne pense même pas que les compagnies, bon, ceux qui avaient intérêt avaient suivi. Mais il n'y avait pas la société civile, il n'y avait pas l'autre partie prenante. C'est une loi, c'est un projet qui peut être considéré comme un projet de consensus. C'est les différentes dispositions nouvelles qui sont dans cette loi. On peut considérer que plus de 80% ont fait le consensus. Plus de 80%. Plus de 80% des dispositions, des nouvelles dispositions de ce projet ont fait le consensus entre les trois parties prenantes. Et s'il y a, on le répète toujours, s'il y a quelques inquiétudes qui demeurent, que les uns et les autres les amènent au Parlement. Et que nous puissions, parce que nous, société civile, nous avons quelques nouvelles propositions d'amendement, quelques nouvelles dispositions que nous voulons que les parlementaires prennent en charge, nous allons les soumettre là-bas. Ce n'est pas pour asphyxier les compagnies, parce que je dis que nous avons besoin de nos compagnies. Ils nous donnent aussi de la valeur pour notre pays. Ils contribuent à notre économie, ils contribuent à notre budget. On n'a pas besoin que nos compagnies nous fouillent.
Un mot à l'endroit de ces parlementaires, aujourd'hui, selon votre déclaration, un mot à l'endroit de ces parlementaires.
Nous avons dit, nous avons confiance en nos députés. Nous voulons que nos députés, nos parlementaires en général, puissent nous faire plaisir d'examiner, de débattre cette loi au cours de cette session. Et que la commission environnement et ressources naturelles examine cette loi au cours de cette session. Si possible, que la plénière de l'Assemblée l'adopte. Parce que le secteur minier fait encore la fierté de notre pays. Même si nous attendons du secteur des hydrocarbures un autre accroissement de développement, parce que le pétrole c'est aussi un grand secteur. Mais nous croyons que les parlementaires ne vont pas nous décevoir, ils vont mettre ça en toute priorité. Et que surtout le président de l'Assemblée nationale puisse programmer la présentation officielle de ce texte. Et c'est ça notre souhait, c'est ça l'invitation que nous lançons au président de l'Assemblée nationale, qu'il puisse programmer la présentation officielle de ce texte et que le ministre des Mines qui représente le gouvernement puisse aller présenter officiellement son texte. C'est lui qui a conduit les travaux tripartites, c'est lui qui a amené avec les autres les dispositions qui sont là.
La loi est programmée, elle est examinée et adoptée, et après les opérateurs miniers se retirent.
Non, il n'y aura pas un opérateur minier qui va se retirer. Parce qu'ils ont été à autre partie. Ça, c'est leur loi. Il y a une ou des dispositions ou la question des taxes qu'ils soulèvent. Mais, mon frère, en Zambie, la redevance minière, c'est 6%. Ce n'est pas seulement la redevance minière que les compagnies zambiennes payent. Nous, nous sommes à 3,5. Et le pire encore, les exonérations qui sont attribuées aux compagnies, elles sont là. Nous avons un système d'amortissement que d'autres pays n'en ont pas. Ils peuvent amortir leur histoire en toute liberté. D'abord, nous n'avons même pas une efficacité pour les contrôles de l'amortissement. Donc, il y a beaucoup d'avantages que les compagnies tirent dans ces pays. Nous, si vous regardez bien, lorsqu'on dit la loi de 2002 a été attractive, personne n'a dit le contraire. Mais on dit aussi que la loi de 2002 a été beaucoup en faveur des compagnies. Pourquoi on dit ça, les compagnies n'en disconviennent pas, ne discutent pas?
C'est pourquoi vous cherchez l'équilibre aujourd'hui?
On cherche l'équilibre. On cherche l'équilibre réellement. On veut que nous ayons beaucoup de compagnies. Nous voulons avoir une loi qui est attractive et nous voulons aussi avoir une loi qui permet à ce que l'État congolais se retrouve. Nous voulons que lorsque les compagnies vont partir, que la population commence à se souvenir d'elles. Ah, nous avions telle compagnie, comme elles se souviennent parfois de la Gécamines. La Gécamines a fait ceci, la Gécamines a fait ceci. On veut que la même revendication, la même réflexe soit aussi aujourd'hui avec nos compagnies actuelles. Il ne faudrait pas que les compagnies partent, la population commence à être contente. Non, ces compagnies nous avaient asphyxiés, ces compagnies ont tout pris. Je ne pense pas que c'est la sécurité pour les compagnies. La vraie sécurité pour les compagnies, c'est qu'elles sont en face d'une population qui est contente. Une population qui se retrouve dans les activités qu'elles exercent. C'est ce qui est capital.
Georges Bokundou, nous pouvons encore beaucoup dire, mais le temps nous est parti, nous fait défaut. Un mot de la fin avant de dire au revoir à nos auditeurs.
Non, je pense que le mot de la fin est simple. Nous avons besoin d'un secteur minier qui est le moteur de développement de notre pays. Nous avons ces potentialités que le monde entier reconnaît. Nous qui travaillons dans ces organisations, on connaît ce qui s'est passé ailleurs. Nous, si vous regardez tout autour de nous, les pays qui sont à côté de nous, ils n'ont pas de potentialités que nous avons. C'est vrai, il peut se poser le problème de la gouvernance, mais nous avons un secteur minier riche, avec une diversité de minéraux. Mais nous voulons qu'une loi qui arrive puisse aider aussi à organiser. Et cela pousse à ce qu'on puisse dire, et nous voulons que lorsque la loi va sortir, le gouvernement renforce ses services pour bien appliquer la loi. Parce que c'est beau bien d'avoir une loi, mais il faut l'appliquer. Nous voulons que aussi la population participe à l'application de cette loi. C'est ça, nous nous attendons à vulgariser la loi. C'est ça notre tâche vis-à-vis de la population.
Vous n'allez pas lâcher lorsque on vous fera des propositions, des enveloppes, comme c'est courant, et puis vous allez abandonner cette lutte que vous êtes en train de mener?
Non, je ne pense pas. Qui va faire la proposition d'enveloppe? Parce que nous avons été aux travaux tripartites. Le niveau où la loi se trouve aujourd'hui, ce n'est plus de notre compétence. Vous allez nous faire la proposition d'enveloppe pour faire quoi? Parce que nous ne sommes pas des parlementaires. Ce que nous avons comme proposition supplémentaire n'a rien à voir avec les enveloppes. Nous avons discuté beaucoup aux travaux tripartites. Nous avons enrichi la loi qui est là. Et nous avons du respect vis-à-vis de nos compagnies. Ils n'ont pas fait ça. Personne n'a fait ça. Et ils ne le feront pas, je ne pense pas.
Mais lorsque le ministre a annoncé à Indaba que le gouvernement renonçait à cause de tout ce qui se passe sur le marché international, ces entreprises ont applaudi de deux mains.
Oui, bon, est-ce qu'ils l'ont applaudi avec conscience ou c'était un sentiment seulement? Je ne pense pas. J'étais à Indaba. D'abord, c'est une confusion qui était seulement. Je ne pense pas que le ministre avait envie de dire qu'on abandonnait. Il y a eu beaucoup d'interprétations autour de ça. C'est pour cela que vous avez vu que nous sommes venus, même moi-même qui étais à Indaba, je n'ai pas fait un communiqué, je n'ai pas fait une déclaration. On s'est réunis et puis on a juste relevé, surtout avec la deuxième déclaration d'un membre du gouvernement, où on a compris effectivement qu'il y avait une certaine confusion, une contradiction. Je pense, la loi, le projet qui est là, c'est le ministre des Mines qui l'a porté. Depuis 2012. Et je ne pense pas que les fruits qu'il a aujourd'hui, il puisse les classer dans un tiroir. Il a fait un travail qui est apprécié, en dehors de quelques lamentations de compagnie, mais chercher à les faire classer. Vous savez, il faut toujours laisser l'histoire. Simon Toumaoku, l'ancien ministre des Mines, c'est lui qui avait présenté la loi au Parlement, c'est lui qui est aujourd'hui le président, il est à la Chambre des Mines, c'est le vice-président de la FEC en charge du secteur minier. Il doit être fier qu'il avait une loi en 2002, et le ministre Kaboulou doit être aussi fier qu'il va présenter une loi, même si on l'adopte, même s'il n'est pas au gouvernement. Mais au moins il pourra dire que lors de mon passage dans ce ministère-là, j'ai produit quand même un bon projet. Et le mettre dans un tiroir, je ne pense pas que ça allait être en sa faveur. Je ne pense pas. Les compagnies qui ont applaudi, j'étais avec elles aussi là-bas. Je dis bien, c'était ça. Il y avait une ambiance. Et c'est peut-être à cause de cette ambiance-là que certains ont applaudi.
Maître Georges Bokundou, merci. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie aussi pour la diffusion de cette information. Nous voulons que la Radio Capi suive ce processus jusqu'à la fin. Puisse un peu médiatiser, donner les informations à la population, aider à diffuser les différents amendements qui sont dans cette loi-là. Parce que d'ici là, on va commencer à donner ces amendements, les nouvelles dispositions, pour voir que si ces dispositions-là sont mauvaises ou pas. Et je pense que ça va plaire à tout le monde.
Et c'est la fin de Panorama économique sur Radio Okapi. Retrouvez l'émission toute la semaine sur www.radiookapi.net. Au revoir et à la semaine prochaine.